Il n'y a pas très longtemps, c'était en février, on m'a demandé de donner une interview. Généralement, c'est moi qui pose les questions, mais j'ai accepté de me prêter, ou plutôt de me plier à l'exercice. Passer de l'autre côté. Le job était simple, parler des victoires de la musique classique. Quand on est présentateur, on fait un peu comme les comédiens, on fait de la promo. Passer quelques questions sur la soirée, les invités, on en est arrivé rapidement à ce que j'appelle le sujet qui fâche. Ça donnait à peu près ça. Leïla, vous avez été prof de lettres classiques. Jusque-là, tout va bien, c'est factuellement juste. Vous êtes devenu journaliste, vous présentez l'info, et là, sans crier gare, il ajoute « En pleine crise des gilets jaunes qui dénoncent un ascenseur social en panne, vous, la petite fille de Harki, vous êtes la preuve que c'est possible. Physiquement, je vous promets, j'ai eu la nausée. Et puis, comme sonné, je n'ai entendu que les mots « mérite », »,« exemple », vos parents doivent être fiers de vous, un truc du genre. J'ai seulement répondu que le mérite n'avait rien à faire là-dedans, que cette idée sentait mauvais. Au fond, m'ériger en exemple, c'est dire en creux que si moi j'y étais arrivée, si tant est que montrer sa tête à la télé était un aboutissement, si moi j'y étais arrivée, c'est que les autres, eux, seraient socialement en échec parce qu'ils ne veulent pas cette réussite. Le mérite versus le démérite. J'ai fini par expliquer que j'avais eu une chance incroyable dans la vie, être regardée depuis le premier jour, avec amour, d'avoir des parents attentifs à tout, à mes besoins et à mes envies. Ma relative réussite n'a rien d'individuel, elle est le fruit de mon éducation familiale, de l'école, de mes rencontres, dans cet ordre-là. Oui, je suis ce que les sociologues appellent une transclasse, pas une transfuge. Je ne fuis pas l'endroit d'où je viens, je le revendique au contraire. Alors, camarades journalistes, oubliez le conte de fées, oubliez le « quand on veut, on peut ». C'est un discours qui exclut l'autre, ce sont des histoires qu'on raconte pour s'auto-célébrer. Et moi, les histoires, ça fait bien longtemps que je n'y crois plus.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kaddour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous culture tous les jours de la semaine sur France Inter pour vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, un auteur qui trouvera toujours une place dans ma bibliothèque. Bonjour Nicolas Mathieu.
Bonjour.
Et je dis pas ça parce que vous avez décroché le prix Goncourt cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, on vous retrouve sur scène ce soir à la Maison de la Poésie pour une lecture musicale de Leurs enfants après eux. Et vous n'êtes pas tout seul, à vos côtés, le musicien, le chanteur Florent Marché. Nicolas Mathieu, vous aussi, vous êtes un transclasse, un transfuge. En tout cas, c'est ainsi que vous vous définissez en partie.
Oui, je m'attendais pas du tout à ce que vous, au petit texte que vous avez lu là, ça m'a. Je crois que quand on se croise entre nous, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça m'a un peu pris au trip. Je vais essayer de me reprendre rapidement. Oui, effectivement. Et comme vous, je suis absolument ulcéré quand je vois les tentatives de récupération. Mmh. Parce que au-delà de produire de l'iniquité, ce discours sur le mérite, il sert surtout à replâtrer l'état des choses inlassablement. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui y arrivent, c'est que tout va bien et qu'il n'y a rien à faire. Alors qu'en fait, notre société, les sociétés en général, mm-hmm. produisent un maximum d'inégalités et de distance entre le haut et le bas, entre les gens. Et les quelques-uns qui arrivent à faire un voyage ascensionnel ne peuvent pas être utilisés pour légitimer l'ensemble de l'édifice.
Alors combien de temps, on parle de distance, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous vous êtes senti différent et où vous avez posé le mot transclasse ou transfuge ?
Je pense que combien de temps? Je pense que ça a pris 25 ans, c'est-à-dire, et ça aurait pu durer toute la vie. Il a fallu que je tombe sur un livre qui me le dise, qui mette des mots dessus à ma place. Et ce livre, c'était, ça devait être Les années d'Annie Ernaux. Je me souviens d'avoir lu ces livres. je vous resitue la scène. Ouais. À l'époque, j'habitais en région parisienne. Ça devait être sur une pelouse du château de Vincennes. Et je me souviens des mots là qui tombaient exactement, mais à la verticale, sur des sentiments que j'avais de frustration, de dette, de peine. Et c'est, voilà, la gorge qui se serre. Et la littérature, elle a ça de particulier, qu'elle produit des connaissances, des vérités, de la science sur l'état du monde qui passe par des affects.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Pour commencer cette émission, Nicolas Mathieu, on fait les choses à l'envers avec un questionnaire la dernière fois. La dernière fois que vous avez eu une sensation de déjà-vu.
Ça m'est arrivé tout récemment. Alors, le problème, c'est que...
Vous ne souvenez plus
exactement, c'est-à-dire que on pourrait parler de ma dernière amnésie et elle coïnciderait exactement avec ma dernière sensation de déjà-vu.
La dernière fois que vous avez oublié un rendez-vous, on est beaucoup dans l'oubli là.
Non, ça ne m'arrive jamais parce que depuis notamment le prix, je suis très très attentif à mon agenda.
C'est vrai, ouais. Parce que ça vous a joué des tours, parce que vous avez peur quoi, qu'on vous le fasse remarquer, qu'on vous juge, qu'on...
C'est une bonne question. Peut-être que l'obtention de ce prix s'est accompagnée d'un sentiment diffus mais persistant d'imposture et que j'essaye de faire le taf au mieux.
La dernière fois qu'on vous a demandé un selfie dans la rue.
C'était dimanche, voilà. Je suis allé voir mon cousin jouer, faire un tournoi de foot à Golbey, ma ville d'origine. Il y a des joueurs qui m'ont demandé de faire un selfie avec moi.
Et vous acceptez volontiers ou... Qu'est-ce qui se passe quand on vous demande ça?
Jusqu'ici, je l'accepte de bon cœur. Ça ne me dérange pas particulièrement.
Ouais. La dernière fois que vous avez pensé non, mais que vous avez fini par dire oui.
Alors je ne me souviens pas de quelle fois c'était, mais il est vraisemblable que c'était une sollicitation d'un journaliste pour un entretien.
On va rien dire. Déjà, on a parlé un peu des journalistes en ouverture de cette émission, on va les épargner un peu. J'en suis une également. La dernière fois que vous avez pleuré au cinéma?
Je pense que c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais le dernier film qui m'a ému, j'ai vu ça la semaine dernière en vidéo, j'ai vu Hot Summer Nights. Un film dont j'ai oublié le nom du réalisateur, c'est avec Chalamet. Et ça compte, comme dans mon bouquin, il y a une grande attention qui est portée aux amours adolescentes et ça m'a touché.
Nicolas Mathieu, il y a un jour important dans votre vie, un jour de novembre 2018. Et tout d'un coup, c'est le début d'une nouvelle vie, pas une nouvelle vie littéraire, elle existait déjà avant. Disons une vie un peu plus médiatique.
Le prix Goncourt 2018 a été décerné au quatrième tour de scrutin à Nicolas Mathieu pour son roman « Les enfants après eux », édition Actes Sud, par 6 voix contre 4 à Paul Gréveillac pour « Maître et esclave », avait obtenu des voix au précédent tour David Diop et Thomas Réverdi.
Leurs enfants après eux, Goncourt 2018, et tout d'un coup, vous êtes l'auteur qu'on a envie de connaître, de questionner. Dans votre roman, on traverse 4 étés entre 92 et 98 avec 3 personnages, Anthony, Steph et Hassine. Hassine, c'est mon préféré. 3 ados qui vivent dans une vallée où les hauts fourneaux ont fermé. C'est une sorte de roman d'apprentissage, mais politique, de la France. Cette France dont on ne parle pas. Avec un tel sujet, la presse vous a beaucoup sollicité. Vous avez sans doute dit oui très souvent. C'est le jeu. Est-ce que vous vous êtes demandé comment réagir? Parce que les questions étaient souvent très orientées sur le politique.
Oui, alors, j'ai pas de problème pour parler, pour avoir un discours politique sur la littérature. Moi, j'ai vraiment le sentiment que tout est politique, de toute façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est toujours question de ces articulations entre du un et du plusieurs, comment on fait pour vivre ensemble, comment on n'y arrive pas, comment il faut le faire malgré tout, etc. Ce qu'il y avait de particulièrement brûlant depuis novembre, c'est que c'était le moment des gilets jaunes. Et que le discours politique que je portais, les choses que je pourrais dire sur mes personnages, ça faisait forcément écho à quelque chose qui était en train de se produire et dont le degré d'incandescence, jusqu'où ça irait, quels excès ça produirait, quelles chances ça représentait, était mal défini. Oui. Donc, j'avais faire ses premiers pas sous les sunlight, puisque c'est quand même...
C'est raide.
Voilà, vraiment, c'était la corde raide. J'étais prudent, mais il ne m'est jamais venu à l'idée de condamner à l'emporte-pièce ce mouvement.
Oui.
Parce que tout de suite, sur des ronds-points, à des péages, j'ai vu ces gens et j'ai reconnu leur corps. Et moi, je savais que c'était pas une France moisie et fasciste.
D'ailleurs, je vous recommande de suivre Nicolas Mathieu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Vous avez publié un très très beau texte sur cette femme en jaune et vous racontez tout d'un coup comment se réunir sur ce rond-point a redonné à une grande partie de la France cette envie d'être ensemble, de questionner et de ne plus cacher sa rage, de ne plus l'enterrer en tout cas. Moi, je vous ai rencontré, Nicolas Mathieu, au lendemain de votre prix Goncourt. Je ne sais pas si vous en souvenez. Vous étiez à la maison de la radio. Vous veniez nous parler de l'adaptation télé de votre premier roman, Aux animaux la guerre. Je vous ai félicité, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit. Et vous m'avez répondu, à vous aussi, vous êtes une transfuge. Et vraiment, j'avais jamais encore posé ce mot. Vraiment, me concernant. J'ai pourtant fait un certain nombre de lectures. Je savais pas que ce terme-là, il était aussi le mien et qu'on pouvait se reconnaître entre nous. C'est vraiment un moment hyper émouvant dans ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pour ça que votre littérature me touche. Alors je sais pas si j'ai les mots pour dire ce que votre livre m'a fait. Alors j'ai choisi une femme que vous avez évoquée, qui aura toujours plus les mots que moi.
Moi, vous savez, j'ai été vraiment stupéfaite, mais c'était quelque chose d'absolument incroyable que de lire, j'avais 16 ans et demi, Les raisins de la colère de John Steinbeck, parce que je n'avais rien lu de semblable dans la littérature française. Ça a été un bouleversement parce que il y avait des gens, j'allais dire, comme j'en voyais dans le café, et qui étaient là dans un livre.
Enfin.
Enfin.
Annie Ernaux sur France Culture, au sujet des raisins de la colère. Je pourrais dire la même chose pour leurs enfants après eux. Je pourrais dire la même chose d'Annie Ernaux. Vous avez parlé de l'impact qu'elle a eu sur votre vie. Et puis, vous parlez tous les deux, c'est ce point commun, je trouve très beau. Vous parlez de la société sans misérabilisme outrancier.
Mais oui, alors, il y a...
On n'est pas là que pour faire pleurer dans les chaumières.
Mais voilà, il y a un lectorat qui, dès qu'on parle des difficultés sociales, convoque ce mot de misérabilisme, mais qui tombe vraiment pas à propos du tout. Pour plusieurs raisons, c'est que ces vies-là ne valent pas moins que d'autres, ouais. Que ces gens-là veulent leur part du gâteau comme tout à chacun, et que, enfin, les personnages du roman, ils sont tous dévorés par une envie de vivre et un désir qui est continuel. C'est une course, quoi, un appétit d'exister.
Et à part Annie Ernaux, qui vous a aidé à vous comprendre?
Beaucoup d'auteurs, mais si on reste dans cette veine-là, évidemment, il y a Héribon, il y a Bourdieu, il y a des gens comme ça qui ont mis des... Les écrivains, ils produisent cette chose assez extraordinaire, c'est qu'ils mettent des mots à notre place sur les choses qu'on vit, et il en ressort un sentiment de soulagement qui est sans pareil. Hein.
On fait une petite pause ensemble, Nicolas Mathieu, on reprend ses esprits sur France Inter, on écoute tout de suite le son du jour, c'est Hervé, cœur poids plume.
Le silence a disparu, ça me fait aussi peur que le vacarme, aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me soutiens plus. Ah ouais, ces maudites paroles. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime. Le point sur les étoiles, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci par-là. Maman, 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 ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à le bout qui va plus. J'ai le cœur poids plume. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur poids plume, le cœur poids plume. Le cœur poids plume, le cœur poids plume. Le réseau ne répond plus. Pourquoi l'ego d'un coup s'évade? Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Toujours raté les ruptures. Comme c'est beau, la rage qui pulse dans sa voix. Aussi loin que je me souvienne, un jour j'ai su. Pourquoi pour toi j'en crève, je me souviens plus. Je fais le point sur les ratures, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci par-là. Je sais pas sauter d'un train qui déraille. Le cœur poids plume, le cœur poids plume, le cœur poids plume.
Nicolas Mathieu est toujours avec nous dans le Mac de l'été sur France Inter pour sa lecture musicale ce soir à 20h à la Maison de la Poésie. Des extraits de son roman « Leurs enfants après eux ». Mais que se passe-t-il d'autre aujourd'hui dans le monde de la culture? Il suffit de demander le programme.
C'est l'heure des médicaments. L'heure des médicaments.
Louvre, retirez leur nom, c'est ce qu'ont scandé hier des militants devant le musée le plus visité au monde. En chef de file, la photographe new-yorkaise Nan Goldin, une action pour dénoncer la famille Sacker, un mécène très embarrassant. Ils détiennent le labo qui produit l'oxycontine, un puissant antidouleur dérivé de l'opium, très addictif, qui a déjà causé la mort de plus de 100 000 personnes aux États-Unis. Il y a plus de 20 ans, le Louvre avait encaissé une coquette somme pour donner à l'une de ses ailes le nom de cette famille. La philanthropie, mon œil.
Tu m'aurais annoncé une vierge estampillée, une rosière de compétition, je t'aurais dit Goubi, attention. Mais là...
Et toi, tu m'aurais annoncé qu'il y aurait un jour une comédie musicale sur Bernadette Soubirou. Je t'aurais dit, Goubi, attention, ce n'est pas une blague. L'histoire de la femme qui a vu la Vierge en 1858 à Lourdes est portée sur scène en musique. Et c'est en ce moment à Lourdes, bonté divine. Il fait bon danser en juillet à Mont-de-Marsan avec Arte Flamenco, le plus grand festival de flamenco en dehors d'Espagne. Toute la tradition autour de cette culture y est réunie. En plus de la danse, la musique, le chant et des propositions artistiques mêlant art visuel et littérature. Ce soir, la compagnie Eva Yerbabuena. Olé !
Le Mac de l'été sur France Inter.
Nicolas Mathieu, ce soir à la Maison de la Poésie, en plein cœur du Marais à Paris, qui est quand même un symbole assez dingue, non?
De se retrouver là, dans Paris
Dans le Marais.
Oui, enfin, je sais pas le symbole de quoi, mais en tout cas, moi, c'est un lieu dont j'ignorais tout avant d'y faire des lectures. Et ça a été la découverte d'un truc, quoi. Parce que moi, je suis jamais monté sur les planches, j'ai jamais fait de spectacle vivant, je n'allais même pas en voir énormément auparavant.
Vous n'aviez même pas la tentation? Vous rêviez pas secrètement?
Non, pas du tout, même s'il y a peut-être un histrion qui se cache en moi. Et vraiment, la lecture, c'est la poursuite de l'ambition littéraire par d'autres moyens, parce que, entre autres choses, la littérature, elle vise à produire des affects dans la tête des lecteurs, et poursuivre cet effort-là par la voix, c'est vraiment un truc... qui m'a enchanté. Et j'ai pas fait ça par-dessus la jambe, je l'ai fait vraiment avec sérieux, en écoutant ce qu'on me disait, notamment il y a Arnaud Catherine qui nous a aidé à mettre le spectacle en scène, et j'étais...
Qui est un auteur, lui aussi, un écrivain.
Et qui, lui, est très versé dans le spectacle vivant, et enfin, vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur.
Alors, celui qui est vraiment un peu votre double, votre jumeau. Vous êtes au diapason tous les deux. C'est le chanteur et musicien Florent Marché qui partage la scène avec vous ce soir. Un petit extrait.
Il se sentait de moins en moins copain avec les manières de sa famille. Les siens, il les trouvait finalement bien petits par leur taille, leur situation, leurs espoirs, leurs malheurs même, répandus et conjoncturels. Chez eux, on était licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. On était normal en somme. Et tout ce qui existait en dehors passait pour relativement inadmissible. Les familles poussaient comme ça sur de grandes dalles de colère, des souterrains de peine agglomérés, qui sous l'effet du pastis pouvaient remonter d'un seul coup en plein banquet. Anthony, de plus en plus, s'imaginait supérieur. Il rêvait de foutre le camp.
Tu auras, j'espère, un boulot à plein temps, de la classe, du flair, la garde des enfants, des vacances à la mer, des aides au logement, et moi, ta pauvre mère, je dis ça simplement pour donner mon avis. La chance de ta vie, la chance de ta vie.
Se faire la malle de son trou, c'est ça, hein, ne pas se sentir à sa place. Et cette chanson de Florent Marché, qui semble avoir été composée pour l'occasion, alors c'est un titre pourtant qui remonte à quelques années, de son album Rio Baril.
Mais entre mon travail et le sien, ou même l'inverse, parce qu'il travaille depuis plus longtemps que moi, mais il y a des vrais effets de résonance et qui ont sans doute, qui découlent d'expériences analogues. C'est-à-dire que lui aussi, il était un gamin qui a grandi dans un bled, qui rêvait d'autre chose, de plus grand, qui a eu des plaies à l'âme, des histoires de cœur. Peut-être une manière d'aimer, de penser, de concevoir le monde qui s'ancre très fort dans l'adolescence et dans l'écriture. Un soin extrême apporté aux détails. C'est-à-dire que tout le temps, ce sont des détails prosaïques, des petites choses qui révèlent ce que sont les personnages, les sentiments. Il parle à un moment d'un baiser qui sent le chewing-gum et la lessive. Enfin voilà, ça convoque tout de suite des sensations et ça dit des choses qui ne se souvient pas de ça.
Ça, c'est une exigence dans votre écriture, se dire il faut que j'arrive à camper comme ça en quelques détails. Vous êtes un observateur au quotidien.
Ah oui, moi je suis un enragé des détails, mais c'est parce que non seulement je me sens une responsabilité par rapport à ces détails, c'est qu'il faut les fixer, parce qu'ils vont disparaître, ils ne nous survivront pas si on les fixe pas. Et puis aussi, ça permet de convoquer l'imaginaire et les sensations du lecteur. C'est-à-dire que quand on dit ces choses-là, ça réveille des choses chez le lecteur.
Il y a un autre titre aussi qui me plaît beaucoup et qui fait partie de votre spectacle.
Les bonnes études, les bonnes rencontres, la vie est rude, on joue la montre, souvent c'est cuit, mais on espère le bon QI, le bon salaire, le bon chemin, les bonnes godasses, on se retient.
Les bonnes écoles de Florent Marché, ça fait aussi écho à votre vie, les bonnes écoles, le parcours scolaire.
Ouais, même si moi, en fait, j'ai eu un parcours scolaire sans heurts, j'ai toujours réussi ce que j'entreprenais, mais en même temps, c'est un parcours scolaire qui s'est achevé dans la frustration et le dépit, parce que j'ai avancé sur ce circuit académique comme un zombie, les mains tendues en avant, les yeux fermés. C'est-à-dire que j'ai fait des tas de sortes d'études. J'ai fait 6 ans d'études après le bac. Et à la fin, j'avais l'impression d'avoir une valise de billets qui n'avait plus cours sur le marché du travail. Tout ce que j'avais fait, mes moult licences et maîtrises en toutes sortes de disciplines, des sciences sociales et des
cinéma,
arts du spectacle,
ça ne
valait
rien.
Que dalle. Ouais. Parce qu'on ne m'avait pas dit... les grandes écoles, les prépas, et tout ça. Moi, j'appartenais à un milieu où ça n'existait pas. Ouais, mais mes parents, qui Dieu sait, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me pousser. Ils me disaient dans les années 90, si tu travailles bien à l'école, tu iras peut-être au lycée. Voilà, il y avait 80% d'une classe d'âge qui avait déjà le bac à l'époque, enfin qui avait son bac chaque année. Donc voilà, je connaissais pas la règle du jeu. J'en ai souffert. Et ça a été aussi l'instrument d'une comment dire, enfin tout ce que après toute la rage que j'ai mis à comprendre le fonctionnement social, ça vient sans doute de ce dépit là.
Vous êtes papa, justement, vous avez compris la règle du jeu. Ça veut dire que forcément vous avez un regard particulier sur l'avenir de votre fils. Vous connaissez maintenant les rouages. Ça lui donne une petite longueur d'avance, c'est ça l'idée?
Ben oui, il sera là où investir ses forces pour qu'elle produise le plus d'effets possible. Mais il y a une chose dont on va tâcher avec sa mère de le garder, c'est que le système de production des élites françaises produit aussi énormément de suffisance.
Ouais.
Et je tâcherai.
C'est pas qu'il vienne un petit con, quoi.
Et c'est ça. On tâchera d'éviter ça. Après, la tentation sera forte, certainement.
Parce que leurs enfants, après eux, c'est aussi un roman de l'héritage et de la transmission. Il est venu le temps de rembobiner. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire aussi réagir notre invité. Dans le transistor de Nicolas Mathieu, un autre écrivain pour qui la figure du père est essentielle, Édouard Louis, au micro de Laure Adler dans L'Heure Bleue, c'était l'année dernière. Pour lui, écrire, c'est donner une voix à ceux qui en sont privés.
Quand j'ai commencé à publier, il y a d'abord eu une incompréhension qui s'est produite avec ma famille et qui est due à ce que je disais avant, c'est-à-dire que les gens dont il était question dans mes livres ne se reconnaissaient pas dans ce que je disais, en fait, et ou alors ne voulaient pas se reconnaître, comme je disais juste avant, où les gens disent « mais pourquoi tu dis qu'on est pauvre ? Pourquoi tu... » alors que nous, on veut pas le dire. Et donc, il y a eu ce premier mouvement d'incompréhension, et ensuite... un dialogue qui a été reconstruit, notamment avec mon père. Et c'est à partir de là que j'ai voulu raconter sa vie, raconter son histoire. C'est un moment où il s'est ouvert à moi et comme il a pas la, il a été privé de la capacité de raconter sa vie lui-même. J'essaye de porter le poids de son histoire avec lui. C'est bien aussi parfois de porter la parole des autres en espérant qu'un jour ils pourront parler eux-mêmes, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, du fait de, ouais, de porter le poids de l'histoire de quelqu'un sur ses propres épaules. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de fort et d'important. Et je pense qu'au moment où on écrit, on devrait toujours se demander où est le silence, où est l'absence de voix, où sont ceux qui ne peuvent pas parler.
Édouard Louis, l'auteur d'En finir avec Eddie Bellegueule et de Qui a tué mon père, il dénonce aussi comme vous la violence sociale, mais j'ai la sensation que chez vous, il y a un peu plus de tendresse pour vos personnages. Est-ce que vous vous sentez, comment vous vous positionnez, si tant est que vous ayez envie de vous positionner par rapport à Édouard Louis ?
Mais je ne vais pas vraiment me positionner par rapport à lui, mais disons que la différence dans nos démarches, c'est que la mienne est sans doute davantage romanesque, mm-hmm. et que du coup je suis amené à faire exister des personnages qui n'existent pas vraiment.
Donc on peut les aimer.
Alors par ce biais de la fiction là, il y a quelque chose de différent qui se passe, qui s'appelle l'empathie, oui. l'identification, et quelque part ça facilite la tâche, je pense.
C'est-à-dire que ça... la fiction, un Welbeck n'est pas forcément dans l'empathie.
C'est pas si vrai, je trouve. Ouais. Moi, j'ai de l'empathie pour ces personnages.
Vous, mais le narrateur et lui, c'est pareil.
Certes. oui, enfin, oui. Alors, moi, c'est sûr que il y a aucun personnage que je construis comme faire valoir. Ils m'importent tous. Je me soucie immensément de ce qui les meut, de leurs motifs. Je leur trouve des raisons à tous. Et oui, oui, si vous voulez absolument dire le mot, il y a de la tendresse.
Ouais, il y a de la tendresse. Et c'est aussi ce qui m'a plu. Et c'est pour ça aussi que je me suis attachée au personnage de Hassine, parce que il y a la lutte des classes, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire de l'immigration. Mmh. Et c'est double dose pour ce personnage. Il y a un extrait qui m'a bouleversée où vous racontez comment les pères de ces jeunes garçons, sans doute cette première génération d'immigrés, n'est pas forcément un repère très fiable non plus pour les fils.
Alors, dans le roman, je pense que cette question de la déshérence, plus que de l'héritage, elle est commune à tous les personnages. C'est-à-dire que le passé ouvrier du père d'Anthony, personne n'en veut non plus, quoi. Mais effectivement, il y a une double peine pour le père de Hassine, c'est qu'en plus, même son identité culturelle, le fils n'en veut pas, quoi. C'est une sorte de déracinement maximal pour Hassine, parce qu'il n'est nulle part. À un moment, il retourne au bled, oui. On lui envoie pour régler ses problèmes alors qu'ils en sont partis parce qu'ils en avaient, ses parents. Et il n'est ni de là-bas, ni d'ici. Il est de nulle part, ouais. Sauf qu'il est, il va être quand même de quelque part. Il va tomber amoureux. Donc
l'amour sauve tout.
En tout cas, c'est un lieu à habiter, l'amour. Ça, moi qui n'ai pas beaucoup d'illusions sur l'existence, ça, je veux bien encore croire à ça.
Et l'amour, c'est pas une reproduction des inégalités de la lutte des classes ou en tout cas des camps.
En partie, si, ouais. Parce qu'on sait très bien. L'exogamie en France, c'est 4% des couples, donc c'est que dalle, évidemment. Tout aimer en dehors de sa classe, c'est quasiment impossible. Mais enfin là, il y a la possibilité, ouais. d'une île.
Ces questions de société, d'inégalité, on le sent quand on vous lit, c'est vraiment dans votre chair. On a la sensation que vous avez envie de donner des coups de poing aussi, parfois. De sortir en fait le lecteur de sa léthargie, de le secouer. Est-ce que vous avez peur, les années passant, aidant, de vous endormir?
Oui, alors ça, c'est vraiment une des grandes hantises que j'ai eues dès après le prix. Je me suis dit, est-ce que ça va t'assouvir,
ouais.
Est-ce que tu vas d'un coup
faire cette génuflexion devant le...
Alors, c'est même pas une génuflexion, ce serait une intégration, c'est-à-dire être assimilé à la bourgeoisie et puis du coup me satisfaire, parce que mon Dieu, il n'y a pas que du négatif à jouir de l'existence et des bienfaits de la bourgeoisie. Et je me souviens d'une phrase, moi je suis très 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 fan de Rocky, ça a irrigué mon enfance. Et dans le Rocky 2, il y a Mickey, son entraîneur, qui vient voir Rocky, qui lui dit, il est en train de t'arriver ce qui peut arriver de pire à un boxeur. tu t'embourgeoises. Mmh. Ça avait été ma hantise.
C'est pas mal, c'est un Goncourt qui cite Rocky. Je crois que vous aimez aussi justement ce que j'apprécie chez vous, dans votre éclectisme culturel, vous parlez par exemple de Stephen King, qui est un auteur qui est généralement considéré comme un auteur un peu populaire, et vous parvenez à lui donner, je trouve, une valeur, et c'est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'il prend souvent des jeunes gens, dans ça je pense, il prend des jeunes gens, des jeunes adolescents, et c'est des héros, c'est des gens... Voilà, qui ne sont pas les stars du quartier, mais c'est des héros positifs.
La question, c'est moins de celle de mon éclectisme, comment j'utilise l'onction de légitimité qui m'a été donnée par un prix, et qui est le plus grand prix en France, ouais. Pour faire bouger les lignes entre la culture noble et l'autre. Et donc, à chaque fois qu'on me demande des conseils de lecture, j'ai la tentation... De citer des livres qui n'appartiennent pas à la culture légitime, justement pour...
Faire le pas de côté.
Pour foutre un peu le dawa, quoi.
Ouais. En fait, vous êtes à la fois un réconciliateur, une sorte de pacificateur, mais qui fout le dawa. Un passeur, en tout cas. Quand on est transclasse, on est entre deux.
Ouais, et puis définitivement, je crois. C'est une position à la fois d'observation privilégiée et puis d'inconfort maximal.
Dans le Mac de l'été, on a poussé les murs pour faire une petite place à la poésie. Tous les jours, dans cette émission, une grande voix de France Inter, bien connue des auditeurs, nous lit un texte.
Le bleu du soir, les vents s'affaissent, une lumière brillante m'attire chez moi. Je m'interroge, qui est là? Un doux ami? Et si c'était mon ami? Sur la terrasse, une silhouette familière, une conversation à voix très basse. Je n'avais encore jamais connu, en moi, la séduction d'une telle langueur. Les peupliers soudain donnent l'alarme, de tendres rêves les ont visités. Le ciel a les couleurs de l'acier fourbi, les étoiles sont mates et pâles. Je porte un bouquet de giroflées blanches, le feu qui s'y cache est pour lui. Il prendra dans mes mains craintives les fleurs et touchera ainsi les doigts très doux.
Vous l'avez reconnu, merci beaucoup Laure Adler, que vous retrouvez à la rentrée à 20h pour l'heure bleue. Laure, pourquoi avez-vous choisi ce texte?
J'ai choisi un texte, un fragment d'un poème de Anna Akhmatova intitulé Le Requiem, qui est peut-être son œuvre poétique maîtresse et principale, pour différentes raisons, parce que je trouve que ce poème, comme tant d'autres, peut parler à toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine sociale et quels que soient les amours qu'elles ont rencontrés ou qu'elles vont rencontrer. C'est une femme poète qui pratique la poésie comme un art intime, qui place les mots avec une précision et une rigueur digne d'un maçon. Et on en a assez des clichés sur la poésie comme étant obscurantiste et lointaine de nos propres intimités. Je pense que la poésie peut aider à vivre, à transmettre l'amour qu'on porte à quelqu'un d'autre et à être contagieuse de plus encore d'amour. Et je trouve que Anna Akhmatova en est l'illustration la plus lumineuse.
Et la poésie, Nicolas Mathieu, dans votre vie, elle est présente ?
Oui. La semaine dernière encore, je suis allé écouter à la Maison de la Poésie Jérôme Leroy, ouais. Qui publie des recueils de poésie à la Table Ronde, et qui, je dois dire, il y a quelques années, m'a un peu réconcilié avec ça.
Vous étiez fâché avec la poésie, quoi, la forme un peu ancienne en poulet, ou c'était quoi votre représentation?
Ouais, et puis c'est un certain hermétisme. On en parlait avec Jérôme, justement, en se disant peut-être que 90% de la poésie est une tentative d'intimidation, mais il y a tout le reste, quoi. Et depuis, j'en lis, j'essaye d'en lire quotidiennement. J'essaye même d'en écrire, mais alors c'est une tannée.
Quoi, ah, mais... c'est vrai. Vous vous prêtez à l'exercice. Qu'est-ce que cette forme vous permet que le roman, la fiction, en tout cas, ne vous permet pas? Parce que j'ai la sensation que c'est, tout d'un coup, c'est un travail de, je sais pas, d'économie. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine.
Peut-être de percolation, de densité, ouais. De distillat, quoi. Ouais. C'est quel est le degré d'intensité, quoi. Vous savez, dans cette série qui vient de passer, la formidable Tchernobyl, à un moment, il parle des rejets de la centrale et qu'il y a une pierre, celle qui irradie le plus, qui est sur le toit. Il dit, c'est peut-être l'endroit le plus dangereux sur Terre. Bon, on rêverait que la poésie ce soit ça.
Qu'est-ce qui vous attend? Dès que vous aurez un peu de temps devant vous, votre prochaine envie de culture, que ce soit du cinéma, la littérature, de la bande dessinée, je sais que vous allez me sortir des trucs un peu comme ça qui partent dans tous les sens.
Non, pas du tout.
Ah
alors,
bon
je viens de faire ma pile là pour partir en vacances.
Ah, la pile, la fameuse.
Là, ça va être très, très politiquement correct. Je crois que je vais relire l'éducation sentimentale.
Qu'est-ce qui vous arrive, Nicolas Mathieu?
Je suis en train de trahir ma classe, je crois.
L'éducation pour l'apparition, tout d'un coup, sur le bateau.
Alors, il y a ça chez Flaubert, effectivement, ce fut comme une apparition. Mais dans l'éducation sentimentale, il y a un travail qui est proche de celui d'un sociologue. C'est-à-dire que vraiment, il y a une coupe de la France. Et puis, il me semble que la France industrieuse et bourgeoise de l'époque de Flaubert fait très très fort écho à celle où nous sommes aujourd'hui. Alors ça m'intéresserait de le relire un peu dans cette optique.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre pile ?
Il y a un peu de poésie justement, il y a Aragon notamment, et puis il y a quelques romans noirs toujours, parce que je continue d'en lire. Il y aura peut-être aussi quelques romans de la rentrée, parce que maintenant on me les envoie. Voilà, il y a différentes choses.
Et il y a des textes aussi, j'imagine.
Que moi j'essayerai d'écrire, par exemple.
J'espère.
Alors, à dire vrai, et c'est là où le prix Goncourt, c'est un peu une grâce et une malédiction, c'est qu'on est happé par un tourbillon qui fait qu'on a quand même très très peu le temps d'écrire, très très peu le temps de penser et d'avoir la disponibilité, cette attitude-là par rapport au monde qui permet à l'écriture de se déployer. Donc j'essaye d'écrire, et alors c'est vraiment un exercice d'humilité totale, parce que là, tout le monde me dit que je suis formidable toute la journée, quand je suis...
Face à la feuille.
Ouais, chaque phrase.
Vous avez une sorte d'hygiène en plus de vie, je crois, c'est tous les jours, devant l'ouvrage.
Alors quand j'écris, j'écris pas tout le temps, mais quand je suis en phase d'écriture intense, ouais, j'écris, je suis très discipliné. Ouais. Je me mets au travail à 9h et j'arrête pas tant que... Enfin, je déjeune, mais sinon je n'arrête pas tant que j'ai pas 1000 mots. Parce qu'en fait, je crois pas du tout à l'inspiration. C'est vraiment, il faut pousser son rocher comme un damné, quoi. Et il en ressort toujours quelque chose. La première presse, la presse à froid, moi, c'est quelque chose d'assez pénible et relativement médiocre, je crois. Mais une fois que tout ça a été produit, là, on peut retravailler le texte. Et là, il se passe des choses.
Et vous pouvez nous dire un peu, parce que j'imagine que quand on écrit des textes comme les vôtres, aussi engagés politiquement, socialement, ça serait un peu étonnant de vous voir sur un autre domaine. Est-ce qu'on se... Vous n'êtes pas finalement créé une forme d'obligation ?
Non, non, parce que, en fait, c'est pas comme si j'occupais une part de marché de la littérature. La manière dont j'écris, pourquoi je le fais comme ça, c'est parce que c'est ma manière de voir le monde. Mm-hmm. C'est-à-dire que mon regard, il est totalement infléchi, comme une balle courbe au tennis, si vous voulez, par tout ce que j'ai lu de sciences sociales, de sociologie, de romans qui portent ça en eux. Donc, j'ai pas d'effort à faire, je le vois comme ça. Quand je vous vois rentrer dans la pièce, je détaille votre manière d'être habillé, les bijoux que vous portez, votre cou. Et j'en déduis des choses.
Ouais.
Et si je vous décrirais, j'aimerais que ça donne à penser des choses au lecteur qui sont d'un ordre politique.
Je ne sais pas, Nicolas Mathieu, si vous êtes un grand voyageur.
Pas tant que ça. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, les grands voyageurs, et qu'il y a surtout des gens qui font du tourisme.
Ben alors ici, dans le Mac de l'été, pas besoin de bouger, rassurez-vous. Ce qu'on préfère, ce sont les voyages immobiles, grâce à la littérature, au cinéma ou à la musique. Aujourd'hui, on s'évade sur la côte est des États-Unis avec California Dream. J'ai pas choisi la version du groupe The Mamas and the Papas, mais celle plus soul de Bobby Womack. C'était en 68.
And the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter. Begin to pray.
Merci Nicolas Mathieu d'avoir été avec nous sur France Inter.
Merci.
Le mot de la fin pour vous, avant de vous retrouver ce soir à la Maison de la Poésie. D'ailleurs, vous n'allez pas tarder à filer.
Peut-être que ce serait vacances, parce que cette saison. Et puis, après toute cette surcharge des derniers mois, j'aspire à un peu de vide, être vacant et me rendre disponible à ce qui existe autour de moi.
Et vous ennuyez peut-être aussi ?
Je ne sais pas que je m'ennuie, c'est que j'ai un sentiment de répétition très très fort et que... ça me fera du bien.
Merci beaucoup Nicolas Mathieu. Merci aussi à toute mon équipe, Hélène Bizio à la réalisation, Marie-Laurence Chéry, Raphaël Grimmarki à la programmation, Jean-Baptiste Audibert aux platines, sans oublier mes deux petites princesses stagiaires, Anouk Valverde et Maïlan Loaec. Demain, le Mac de l'été fait ses valises. Et oui, on va pas très loin. Hein. Direction le Fnac Live à l'Hôtel de Ville de Paris, au programme Stéphane Echer, Léonie Pernet, que du beau, que du bon, que du live. Rendez-vous donc à 18h. 8h, belle fin de journée à vous, les amis, sur France Inter.